France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir aux multiples préparatifs de Noël selon les régions de France. Eh bien, nous avons retenu trois exemples. Le premier chez une ostréicultrice normande qui ne veut pas subir le stress de réaliser les deux tiers de son chiffre annuel en seulement quelques semaines de réveillon. Ce sera le témoignage en début d'émission. Gros engouement également pour les centons de Provence. Là aussi, cette saison, nous irons dans le sud voir comment les centonniers se préparent toute l'année. Concurrencée par la main-d'œuvre à bas coût en Tunisie. Ces 15 derniers jours de l'année engendrent aussi leur lot de réveillons alcoolisés, le risque sécuritaire, l'alcool au volant, donc les voitures brûlées, les mortiers, dont on a appris à ne plus les voir comme des seuls symboles de fête, mais comme des armes incendiaires, sans oublier les marchés de Noël parfois menacés. Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure avec la porte-parole de la police nationale. Les préparatifs de Noël dans sous toutes les coutures, c'est le thème ce soir d'une semaine en France. Soyez les bienvenus.
Éric Delvaux, le 18-20.
Les réveillons, donc, période charnière, on l'a dit, pour les ostréiculteurs. La France est le premier pays producteur et consommateur d'huîtres. Noël et jour de l'an peuvent représenter jusqu'à deux tiers du chiffre d'affaires annuel. Bonsoir Marie Quétier.
Bonsoir.
Vous êtes productrice d'huîtres en Normandie, à Saint-Germain-sur-Aix, c'est dans la Manche. Vous avez repris les bassins, le parc de votre père. Expliquez-nous comment cette période des réveillons ne représente chez vous que 15% de votre chiffre d'affaires, car c'est un choix de votre part.
Ouais, c'est un choix de ma part et surtout c'est déjà un choix de mon père. Il tenait à ce qu'on ait une vente régulière. Et puis comme on s'est orienté pas mal sur les restaurants, tout ça, eh ben ça fonctionne toute l'année. Voilà.
Et cette façon donc de ne pas dépendre des périodes de fin d'année, c'est aussi pour ne pas subir le stress peut-être que peuvent connaître d'autres producteurs à côté de vous.
Oui, enfin, c'est quand même une bonne part de notre chiffre d'affaires quand même, Noël. Là, c'est peut-être 15-20% et c'est quand même conséquent.
C'est conséquent, évidemment. C'est aussi par choix que vous refusez d'agrandir votre parc à huîtres. Pour quelle raison ?
Parce que on s'oriente sur la qualité, mais je pense que de toute façon, on peut dire que l'huître de norme, tout le monde essaye de faire de la qualité maintenant. C'est la nouvelle politique dans l'huître. On est surtout en Normandie, on essaye vraiment de s'appliquer à faire une belle huître.
Une belle huître creuse,
c'est ça,
chez
la
vous.
La nouveauté dans l'ostréiculture.
L'huître creuse. Je parlais du chiffre d'affaires 15 à 20% pour ces seules fêtes du réveillon. Vous avez trouvé un système, c'est...
Allô.
Vous m'entendez ? Moi, je vous entends très bien.
Allô ?
Parlez-nous. Vous m'entendez ? Vous êtes en ligne de Normandie, Marie Quétier, ostréicultrice. Mais moi, je vous entends très bien.
Bon,
très bien. Parlez-nous de ce distributeur automatique d'huîtres.
Bon.
Allez-y, ce distributeur automatique d'huîtres, il marche toute l'année 24h sur 24 ?
Ouais, alors... Ouais, il marche 24h sur 24. Et nous, ça nous a semblé important d'avoir cet outil parce que en ostréiculture, on peut pas être ouvert tout le temps parce qu'on est à la mer. Alors on peut mettre vente au détail, sauf quand la mer est basse. Ce serait pas super, quoi. Par conséquent, d'avoir ce système de distributeur, ça nous permet d'être ouvert tout le temps et en plus, le soir, tout ça, d'être présent.
Vous produisez et vous vendez chaque année 150 tonnes d'huîtres creuses élevées donc dans votre parc d'Utah Beach, me semble-t-il. Maîtriser toute la production d'huîtres, c'est un gage de qualité.
Oui, et puis au moins on sait où on va, quoi. Ça assure notre connaissance de nos produits, quoi. Et ça, c'est important, oui.
Parlez-nous du stress également à l'approche des réveillons chez les ostréiculteurs. Stress lié au vol d'huîtres dans les parcs. Êtes-vous concerné de près ou de loin autour de vous ?
Bah, on en est conscient, mais de toute façon, on fait le boulot et il y a toute une organisation pour nous protéger. Il y a les gendarmes à cheval, il y a un peu de surveillance, mais de toute façon, nous, on fait notre boulot et on se stresse pas avec ça parce que sinon on dormirait plus.
Parlez-nous tout de même de ces vols d'huîtres à l'approche de Noël et du jour de l'an. Est-ce que c'est le simple, on mettra le simple entre guillemets évidemment, le simple fait de consommateur isolé, ou est-ce que c'est un trafic en bande organisée?
Non, je pense que c'est des consommateurs isolés. Hein, le vol d'huîtres, c'est pas un professionnel. Enfin, globalement, ça arrive très rarement, quoi, qu'il y ait des vols entre professionnels. On se respecte.
La Normandie, c'est, je crois, la première région productrice d'huîtres en France. Expliquez-nous comment votre père a eu l'idée de se lancer dans la production dès 1971.
Alors, ce qui se passe, c'est que la Normandie, avant, il n'y avait pas d'huîtres en Normandie parce que il n'y avait pas de captage naturel, c'est-à-dire des petites huîtres qui se collent partout, tout ça. En revanche, il y avait des régions où il y en avait, de vers Arcachon, Marennes, tout ça, ils avaient des huîtres. Donc, et mon père, il s'était dit non, ça doit marcher, c'est sûr, ça marche, ça marcherait en Normandie. Et il a acheté des petites huîtres à des producteurs du sud, qu'il a ramené ici. Alors au début, il avait fait des tables en bois, dans des poches en rotin, tout ça. Et puis petit à petit, il a réfléchi. Il y a un gars qui avait mis les lits d'hôpitaux. Alors ça a été une révélation. Un Francis Ellie qui avait mis des lits d'hôpitaux. Et par conséquent, ils pouvaient mettre leur sac sur les lits.
Leur sac d'huîtres dessus.
C'était une très bonne idée. Il est direct allé à la forge où ils ont fait des tables.
Merci. Merci de ce témoignage, Marie Quétier, ostréicultrice donc en Normandie, à Saint-Germain-sur-Aix. Bonne période de fin d'année pour vos productions. La période de Noël sont aussi tous ces bouts de choux qui commencent à compter le nombre de dodos. Exemple maintenant en Loire-Atlantique avec 3 enfants de 4 à 6 ans. Nous allons à Couëron, c'est près de Nantes. Voici Samson, Anémone et Flore, où chacun guette le Père Noël. Et pour les faire patienter, les parents leur font parfois des canulars, des farces qu'ils attribuent au célèbre lutin farceur. C'est le micro ouvert de Sandrine Houdin.
Il a pris un coussin et après, il a pris un bébé, il a mis sur le coussin et il a fait semblant que c'était un vrai bébé. Pas du tout drôle. Il fait trop de bêtises.
Et toi, t'en fais pas de bêtises?
C'est manger mes crottes de nez.
Crottes de nez?
Parce qu'avant, elle mangeait ses crottes de nez à chaque fois. Maintenant, j'ai arrêté. J'ai dit pardon. J'arrête. J'arrête ces crottes de nez.
Alors, qu'est-ce que vous avez demandé comme cadeau, Samson?
Doudou licorne.
Un doudou de licorne?
C'est un cheval qui ressemble à un poney, mais avec une corne. Et aussi, je voudrais une serre-tête. Et aussi, toujours de la pastèque.
Ah, tu veux aussi de la pastèque?
Oui. En plus, moi, je vais avoir un château de Barbie avec toutes les princesses.
Les princesses, tu aimes bien?
Non. Parce qu'en fait, elles attendent super longtemps pour faire leur prince. C'est trop long, c'est nul.
Et pourquoi tu commandes des robes de princesse alors?
Parce que j'aime bien.
Et ça fait quoi quand on se lève et qu'on découvre tous les cadeaux? Ah, tu te touches le cœur là?
Ouais, parce que il fait ça. Doum, doum, doum.
Quand on est très très content?
Oui. En plus, c'est fastos. Moi, je vais descendre de mon lit, aller en bas, et s'il passe, je vais dire « Père Noël, tu vas nous donner des cadeaux ?» Lui, il va dire oui.
Et pourquoi il va dire oui?
Parce que j'étais sage, il voit tous les enfants de la planète. Il a des pouvoirs de voir à travers les murs.
Est-ce que tu l'as déjà vu?
Oui.
Il est comment?
Très beau gosse.
Il est quoi?
Il est très beau gosse. Ouais.
J'arrive pas à être sage, c'est un peu difficile en fait.
C'est-à-dire?
Par exemple, dans ma chambre, sans faire exprès, je renverse ma table de chevet et imagine, il y a un verre sur ma table de chevet. Le Père Noël, imagine, il vient pas me donner de cadeaux.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Faut dire pardon et excuse-moi, j'avais pas fait attention. Si on dit pardon aussi, c'est pas grave.
Samson, qu'est-ce qui lui fait plaisir au Père Noël?
C'est quand on sente plus de neige et grand sapin et banane et grand-mère.
Bravo! Bravo!
Et aussi la deuxième. 1, 2, 3, 3, 10, 3, vu un petit fripon.
Il aime les chansons de Père Noël, vous pensez?
Ouais, on t'a déjà dit. Et pour entendre, il a une oreille magique. Il attend ce qu'on dit.
Un exemple.
Papa, quand il est en colère, il dit un super gros mot. super merde.
Super merde?
Ouais, mais il faut vraiment, vraiment très fort fermer les oreilles. Très fort.
Mais alors, si papa dit des gros mots, il n'aura pas de cadeau?
Ouais, il n'y aura pas. Les parents, ils ne vont pas lui donner des cadeaux.
Oui, parce qu'on parle toujours des enfants. Mais est-ce que les parents, ils sont toujours sages?
Non. Ils nous obligent à prendre un bain, alors qu'on n'a pas envie.
Ça, c'est des bêtises des parents, alors?
C'est méchant. On n'a pas le droit de dire on est obligé. Si on n'a pas envie, on a le droit.
On n'a pas envie de quoi?
On n'a pas envie de partir à la piscine. Ou on n'a pas envie d'aller dans notre chambre. On a le droit. En fait, si on n'a pas envie, on n'a pas envie.
Alors, si vous étiez papa et maman de votre papa et votre maman, qu'est-ce que vous leur demanderiez?
Puis nous obliger.
Ouais.
Je les oblige à pas nous obliger à faire quelque chose.
Allez, venez, on va le faire. On va le faire.
Les parents, soyez sages. Les parents, soyez sages. Les parents, sages.
Voilà donc pour ces paroles d'enfants recueillies à Couëron, c'est près de Nantes, dans le micro ouvert de Sandrine Houdin. Une semaine en France donc consacrée ce soir à la préparation des réveillons selon les régions. Nous avons entendu une ostréicultrice de Normandie. Eh bien, nous partons dans le sud à présent voir ce que devient le métier de centonnier. On en parle avec vous. Bonsoir Michel Bouvier.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'Union des fabricants de santons de Provence. Avant de parler d'avenir, un mot d'histoire peut-être pour nous rappeler à quand remonte cette tradition des figurines bigarrées, Jésus, le bœuf, l'âne et le berger en argile. Ça date de quand?
Alors, en fait, ça date de la Révolution. Les crèches étaient dans les églises et à la Révolution, les églises ont été fermées. Et donc, les Provençaux, Marseillais en particulier, se sont organisés pour fabriquer eux-mêmes leurs crèches.
Aujourd'hui, donc, oui, allez-y, je vous
non,
en prie.
Non. Et le premier santonnier qui a commencé à reproduire les santons avec des moules en plâtre, c'est lui, il s'appelle Jean-Louis Laniel, et il était au panier à Marseille.
On va reparler de la foire de Marseille tout à l'heure. Il reste aujourd'hui en France 150 santonniers. On parlera aussi de la concurrence tunisienne dans un instant. Mais depuis toujours, le métier de santonnier se transmet essentiellement en Provence, par les familles de Provence?
Oui, en fait, il n'y a pas d'école de formation de santonnier. On se forme sur le terrain. Et pendant très longtemps, ça a été surtout famille. Hein. Si vous voulez, les enfants reprenaient le métier de leurs parents. Aujourd'hui, c'est un peu différent dans la mesure où maintenant, il y a des santonniers qui gagnent très très bien leur vie. Et donc, parfois, des hommes d'affaires sont aussi intéressés pour prendre des ateliers de santons.
Aujourd'hui, les santons de Provence sont concurrencés par des figurines fabriquées en Tunisie. Est-ce qu'elles ont le droit, d'ailleurs, ces santons de Provence en Tunisie, est-ce qu'ils ont droit à l'appellation santons de Provence?
Alors aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas d'appellation protégée, donc ils peuvent les appeler comme ils veulent. Actuellement, on est en train de mettre en place une indication géographique santon de Provence, et dès que cette indication géographique sera mise en place, eh bien, ils ne pourront plus parler de santon de Provence.
Une IGP donc, hein, une indication géographique protégée que vous réclamez. Vous avez bon espoir de l'obtenir quand?
Alors, on dépose le cahier des charges là en janvier 2026. Et donc après, il y a une enquête publique qui dure 2 ou 3 mois et après, l'INPI prendra la décision.
Expliquez-nous comment est-ce qu'on reconnaît un vrai santon de Provence. À quoi le voit-on?
Alors, si vous voulez, un vrai santon de Provence, il doit être fabriqué avec un processus particulier qui est l'estampage ou le coulage d'argile. Et surtout, le plus important, c'est qu'il soit fabriqué en Provence.
Évidemment, ça vaut mieux. Parlez-nous de la grande foire aux santons qui se tient en ce moment à Marseille. C'est un rendez-vous, je crois, qui remonte à 1803. Qu'est-ce qu'on y voit à cette foire de santons à Marseille?
Alors, à cette foire, on y voit beaucoup de santonniers, puisque nous sommes 21. C'est une vente à forte concurrence, puisqu'on vend tous les mêmes choses. Alors, souvent, les étrangers se pose la question de savoir comment on peut continuer à vivre en vendant tous la même chose. Alors il faut leur expliquer que chaque santon est différent, que chaque santonnier a sa façon de faire et que donc on a tous des clients fidèles en général Et donc, ça nous permet de continuer à vivre.
Est-ce qu'on achète des santons toute l'année ou est-ce que c'est en ce moment le grand rush commercial pour vous ?
Ah non, le grand rush, c'est en ce moment, c'est très saisonnier. Vous savez, la crèche ne se fait qu'au mois de décembre. Et si vous voulez, durant l'année, on peut vendre quelques santons qui sont plutôt des souvenirs ou des santons d'exposition, de très beaux santons, vous voyez, que l'on peut mettre en vitrine. Mais le gros de l'activité, bien entendu, c'est actuellement novembre-décembre, je dirais.
Merci beaucoup Michel Bouvier de ce témoignage, président de l'Union des fabricants de santons de Provence. Vous écoutez Une semaine en France, c'est aussi une équipe, Charline Legris à la rédaction en chef, Juliette Gou à la réalisation. Merci à Benjamin Ducy qui m'a aidé à préparer ce numéro. Voici le premier album des Hollandais de Nuzan Tarabit, d'inspiration indonésienne. Tamat, c'est le titre, et le groupe s'appelle Nuzan Tarabit, le choix de Djoubaka. Un grand merci à la technique ce soir, la technique du 18-20, Philippe Duclos, Fabrice Desmaz et Marie Potier.
France Inter, le 18-20.
Les préparatifs de Noël selon les régions, on en parle dans Une semaine en France. On va parler du volet sécuritaire dans un instant. Avant cela, Corinne Audouin, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Avec vous, on va faire un petit tour non exhaustif des traditions les plus étonnantes de Noël dans les régions de France.
Est-ce que vous connaissez, Eric, le Raya de Nadaou ?
On dirait une incantation.
Voilà, alors l'accent n'est pas garanti, ça se passe en Gironde. C'est un grand feu qu'on allume dans la nuit du 24 au 25 décembre avant de faire le tour des champs avec des flambeaux et en chantant des incantations.
Bazas, hier soir, les rues et la place de la ville ont été illuminées par les Rayos de Nadaou, les feux de la Noël. Un rituel païen qui consistait jadis à faire le tour des champs, un flambeau à la main pour chasser les mauvais esprits de la nuit. Cette fête rejoint la tradition des feux de la Saint-Jean d'hiver qu'on allumait autrefois à la fin décembre pour célébrer le soleil renaissant en plein solstice d'hiver. Un rite de magie, une prière à la lumière, une sorte de supplique au ciel pour que le soleil nous revienne au plus vite. Bazas se souvenait donc hier soir de ses plus vieilles racines gasconnes.
Un reportage de France 3 Midi, Aquitaine, en 2000. Un rituel païen, dit le journaliste, parce qu'en effet, le Noël chrétien qu'on connaît aujourd'hui a fait son nid dans des traditions qui préexistaient en Europe. Au 4e siècle, le pape Libère fixe officiellement la date de naissance de Jésus-Christ, le 25 décembre. Et ça tombe bien, c'est une date qui colle avec les fêtes du solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, explique l'historienne Nadine Crétin.
entre Noël et 1er janvier, les jours ne rallongent pas à ce moment-là, ou très peu. Et donc, les paysans, avaient des craintes pour l'année qui venait. À cette époque du solstice, on trouvait déjà beaucoup, beaucoup de conjurations, de porte-bonheur. Et entre autres, à Rome, justement, dans la Rome impériale au IVe siècle, il y avait la tabula fortunata, qui était cette grande table avec des mets servis de tous les genre, avec beaucoup de boissons également, qui ressemble beaucoup quand même à nos réveillons. Mais c'était à la veille des calendes de janvier, c'était pour l'année nouvelle.
Nadine Crétin est invitée d'Ali Rébéi sur France Inter en 2018. Alors ces coutumes anciennes, pré-chrétiennes, donc on en trouve la trace dans toutes nos régions. En Normandie, on brûle une bûche, on garde ses cendres, jusqu'à l'année prochaine, on va les mélanger avec la nouvelle bûche. En Bretagne, quand les 12 coups de minuit sonnent, il paraît que les menhirs sortent de terre pour boire l'eau des sources.
Donc des croyances et de la magie, pourquoi pas. Corinne, une autre grande tradition de Noël, ce sont les menus à table.
Bien sûr, table garnie d'escargots en Bourgogne, de gaufres en Champagne-Ardenne, de beignets fourrés en Savoie et recouverte des 13 desserts en Provence, 13 comme Jésus et ses apôtres.
Le nougat, nougat noir, nougat blanc, c'est assez très important. Et puis vous avez tout ce qui, comme c'est des fruits quand même, ça peut être des fruits confits aussi ou des fruits sous alcool. Et ce qu'on boit en même temps, c'est du vin cuit. Et puis après, donc, on peut se servir du vin cuit pour faire cacio-fio, c'est-à-dire mettre la bûche au feu et dire la formule consacrée, allègre et allègre, que notre sienne nous allègre, nous ben vin, tout ben vin, que Dieu nous fague la grâce, il déveillerait l'anque vin, et si siam pas plus, que si gaim pas main. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas plus, toujours très pratique, en Provence. Au moins, nous ne soyons pas moins, assez loin.
Un extrait du Pays d'ici, en Provence, sur France Culture, en 97. Alors, l'abondance sur la table, les cadeaux apportés aux enfants, c'est le symbole du cycle de la vie. Et comme le Père Noël ne peut pas être partout, eh bien, il a plusieurs adjoints. Évidemment, Saint-Nicolas dans l'Est, le Père Janvier en Bourgogne, en Savoie, le Père Chalande, et la Tante Harry, en Franche-Comté. Alors, cette paysanne n'a pas de reine, mais un âne, qui apporte des friandises aux enfants. Et comme en France, Eric Tousse termine par une chanson, et bien direction les Antilles pour le chanter Noël en famille, entre amis. Ce sont des cantiques sur des rythmes créoles. La tradition en remonte au Moyen-Âge. On écoute « Quand Dieu naquit à Noël » par Henri Deps, Manuela Pioche et Maurice Alcindor.
Quand Dieu naquit à Noël dans la Palestine, on vit ce jour solennel, une joie divine, qui n'est ni petit ni grand, qui n'apporte à son présent. Et non, 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 et non, fri, 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 et non, non, et non, fri, et non, fri, sans cesse, toute sa richesse.
Le chanter Noël aux Antilles. Donc, grand merci, Corinne Audouin. Une semaine en France consacrée aux fêtes de fin d'année selon les régions. On va parler maintenant de l'aspect sécuritaire des réveillons parfois sous haute protection. On en parle avec vous, Agathe Foucault. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes commissaire, porte-parole de la police nationale. Que ce soit à Paris ou en région, pourquoi les réveillons représentent-ils toujours un risque élevé de troubles à l'ordre public?
Alors, les rassemblements, en réalité, aujourd'hui, présentent plusieurs risques. C'est d'abord le risque terroriste. Depuis 2015, nous y sommes particulièrement attentifs, depuis les attentats. Et ça nécessite, de notre part, un dispositif particulier. Et puis également, dès lors qu'il y a des rassemblements importants de personnes, il y a des risques de troubles à l'ordre public, des risques de dégradation, et cela emporte également notre mobilisation.
Un œil particulier sur les marchés de Noël, vous parliez des risques terroristes, ça sont les cibles qui restent encore privilégiées ?
Ce sont des cibles privilégiées parce que ce sont des symboles forts et qu'elles rassemblent beaucoup, beaucoup de visiteurs. À Strasbourg, par exemple, c'est plus de 3,4 millions de visiteurs. Donc ça nécessite nécessairement notre mobilisation avec les autres acteurs de sécurité, notamment les municipalités.
Dimanche dernier, après l'attentat antisémite de Sydney, en Australie évidemment, en France, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait demandé un renforcement de la sécurité autour des lieux de culte, autour des lieux de rassemblement. Ça se traduit comment pour la police nationale dont vous êtes la porte-parole?
Alors pour la police nationale, c'est la mobilisation des policiers sur l'ensemble des lieux de culte. En ce moment, ce sont plus particulièrement les lieux de culte juifs, les lieux de culte catholiques, où les policiers vont être présents, vont être plus visibles, notamment au moment des offices, et puis vont aussi prendre attache avec les responsables cultuels pour anticiper les rassemblements.
Y a-t-il des départements ou des villes où les infractions et les risques terroristes sont plus prégnants qu'ailleurs ?
Dès lors qu'il y a un rassemblement de personnes aujourd'hui, ça suscite vraiment pleinement notre attention.
Et la capitale en particulier ?
Alors, la capitale est une ville où il y a un plus grand nombre de personnes. Donc, nécessairement, le dispositif va être adapté. Mais la police nationale, elle assure ses missions de la même manière partout sur le territoire. Et elle va, notre objectif, qui est de protéger les personnes qui participent à ces rassemblements, il est partagé sur l'ensemble du territoire, que ce soit à Paris, à Marseille ou en Provence.
On va parler de l'alcool. À Noël ou au premier de l'an, le nombre d'infractions liées à l'alcool ou à la drogue augmente. Dans quelle proportion par rapport au reste de l'année?
Alors, les moments festifs, c'est toujours des moments de consommation. Effectivement, vous évoquez le stupéfiant, l'alcool, mais en ce moment particulièrement, on a aussi le protoxyde d'azote, où on a de nombreux accidents. Et donc, cela emporte pour nous des mesures réglementaires en amont pour restreindre, par exemple, sous l'autorité du préfet, les ventes d'alcool. Et puis, des contrôles qui vont être renforcés, parce que la consommation de stupéfiants, la consommation excessive d'alcool, la consommation de protoxyde d'azote. Le résultat, très concrètement, c'est des morts sur la route. Il y a 700 morts par an sur les routes à cause de la consommation de stupéfiants, ou en tout cas un conducteur a consommé du stupéfiant.
Vous parliez du protoxyde d'azote, on va rappeler ce que c'est. C'est un gaz hilarant qui est très en vogue, particulièrement chez les jeunes en ce moment. Vous vous attendez à une recrudescence pour les fêtes de Noël de ça ?
Sur le protoxyde d'azote, effectivement, c'est un phénomène, sa consommation, qu'on constate davantage depuis plusieurs années, qui est réapparu vraiment dans un cadre festif et donc une consommation par les jeunes avec un coût qui est faible et une vente aujourd'hui qui est libre parce que c'est un produit qui est utilisé dans d'autres domaines, notamment dans la cuisine. Toutefois, il y a eu des évolutions législatives, notamment en 2021. Aujourd'hui, on ne peut pas vendre du protoxyde d'azote à un mineur, on ne peut pas vendre du protoxyde d'azote aux abords d'un lieu de fête. Et donc, c'est sur ces mesures que se porte notre action, et puis également sur la prévention, pour vraiment prévenir sur les risques, parce que c'est dangereux.
Et pour le réveillon du Nouvel An, faut-il continuer chaque année à dresser le bilan du nombre de voitures brûlées, une sorte de palmarès que les incendiaires peuvent chercher à battre chaque année ?
C'est pas sur cela que se concentre notre action. Notre objectif est atteint lorsque les personnes qui souhaitent festoyer, qui souhaitent se rassembler pour profiter dans la joie de ces moments festifs, le fassent sans être blessées, sans être prises à partie. C'est vraiment l'objectif de nos dispositifs.
Une question également sur les mortiers, quand ils sont tirés contre les forces de l'ordre notamment, là encore, c'est pendant les réveillons que les mortiers sont principalement tirés dans l'année ?
Il y a des moments où on s'attend à ce qu'il y en ait davantage, la fête de la musique, le 14 juillet, le 31 décembre, mais en réalité, ce phénomène a quand même bien évolué et au quotidien, il faut se rendre compte que c'est toutes les nuits que les policiers sont pris à partie et sont victimes de jets de mortier. Là encore, il faut se rendre compte de ce que c'est que d'avoir des artifices qui arrivent, qui passent sous les visières et qui blessent les policiers sur le visage. Et cela suscite et cela emporte forcément des moyens de protection pour nous, pour que les policiers puissent intervenir partout sur le territoire en sécurité.
Une vente de mortier qui est pourtant réglementée en France. Ceux qui les utilisent contournent la loi par Internet, j'imagine ?
La vente de mortier, effectivement, par Internet, elle se fait, mais elle se fait aussi de manière tout à fait légale. Et puis, les artifices sont catégorisés en fonction de leur dangerosité. Certains sont interdits de vente aux mineurs. Et donc, là encore, il y a des mesures préfectorales en amont qui sont prises. Et les policiers dans les territoires effectuent des contrôles pour s'assurer que la vente des mortiers est bien respectée.
Merci beaucoup d'être venu le dire ce soir en direct sur France Inter. Agathe Foucault, porte-parole de la police national, les réveillons sous protection grâce aux policiers notamment. Merci d'être venu en parler. À suivre, l'actualité en région. On parlait des réveillons, champagne donc, sans prendre le volant, évidemment. Champagne version Jacques Higelin sur France Inter.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, pages pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Que ce soir nous sommes attendus dans les mains des crânes.
elfes follets, elfes faunes et farfadets, c'est Fred mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, vous avez remarqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Satyre, joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne.
Campagne, millésime 1979, c'était Jacques Higelin.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
Le multiplex des régions à présent, l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Cotentin, ICI Hérault et ICI Creuse, Benoît Martin, Mathias Kern, Sophie Peretti. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
À Coutances, en Normandie, Benoît Martin, ce soir, le dernier gynécologue encore en activité s'apprête à fermer son cabinet.
Oui, c'est une page qui se tourne et dans un contexte de démographie médicale en Berne, surtout en ce qui concerne les gynécologues. C'est une mauvaise nouvelle pour les femmes du centre du département de la Manche. Elles se retrouvent à partir de ce week-end sans médecin chez qui consulter. Alors vous me direz que ce gynécologue aurait pu continuer au-delà de la retraite pour aider ses patientes. Eh bien c'est exactement ce qu'il a fait puisque Casimir Musinski, c'est son nom, quitte son cabinet à la veille de son 87e anniversaire qui tombe demain, après 55 années au service des femmes du territoire. Et ce qu'il pousse à arrêter, ce n'est même pas la fatigue, mais une lassitude provoquée par l'inflation des tâches administratives et numériques.
Et ce départ symbolique montre toute la difficulté des territoires ruraux à maintenir une médecine de proximité.
Et oui, dans ce territoire du Centre-Manche, à Coutances, la maternité a fermé en 2016 parce qu'à l'époque, elle peinait à recruter les médecins nécessaires. Depuis, les femmes enceintes se sont habituées à faire jusqu'à une quarantaine de kilomètres pour se rendre à Saint-Lô pour accoucher. Mais elles continuaient à pouvoir être suivies à Coutances. Désormais, elles devront aussi faire de la route pour leur consultation. Une situation difficile à accepter pour le docteur Musinski, qui tout au long de sa carrière s'est mobilisé pour maintenir une médecine de proximité. Un combat qui l'aura mené bien au-delà de l'âge de la retraite et qui lui fait dire « Je pense avoir accompli ma mission ». Difficile de le contredire.
Et de Coutances, une grande diagonale vers le sud à Montpellier, Mathias Kern. La nouvelle ligne 5 du tramway sera inaugurée demain avec cette particularité montpelliéraine qui veut que chaque ligne possède son propre design. On n'est pas loin de l'œuvre d'art.
Exactement, la commande pour cette ligne 5, c'était d'ailleurs d'évoquer la nature parce que le trajet a été dessiné en passant près de 12 parcs et espaces verts, notamment le vaste zoo du Lunaret ou encore le Jardin des Plantes, tram blanc aux touches vertes, commandé par un artiste camerounais, Barthélémy Togo. Il tranche avec les autres trams, le bleu et ses hirondelles pour la ligne 1, la ligne historique, les motifs très colorés de fleurs pour la 2, l'univers aquatique, et les teintes dorées pour les lignes 3 et 4, signées Christian Lacroix. Et c'est le constructeur espagnol CAF qui a conçu ces toutes nouvelles rames montpelliéraines, et non plus le français Alstom. La municipalité met en avant la fierté régionale, puisque ce tram sort des usines de Bagnères-de-Bigorre, donc en région Occitanie. À quelques mois des municipales, l'enjeu évidemment est très important pour le maire socialiste Michael Delafosse, qui a fait le choix de la gratuité dans les transports, choix critiqué récemment par la Cour des comptes pour son coût pour la collectivité. Depuis maintenant 2 ans, les habitants de la métropole n'ont plus à payer avant de monter dans le tram.
Après Montpellier, Guéret, Sophie Peretti. Le nom d'une rue dédiée à l'ancien maire de la ville a enfin été rectifié. Ça faisait 80 ans que la rue André Liraud, L-Y, était mal orthographiée. Elle devient enfin la rue André Leroy, L-E-Y.
Oui, c'est une histoire que n'aurait pas renié Georges Perec, hein, puisque la lettre en question, vous venez de le dire Eric, est un E depuis presque 80 ans. Une rue du centre-ville de Guéret porte le nom d'André Liraud, L-Y-R-A-U-D. La plaque date de 1946, on est aux sorties de la guerre. Une commission municipale a été chargée de donner de nouveaux noms à une vingtaine de rues de la préfecture de la Creuse, et c'est comme ça que sont apparues la rue de Londres, la rue Stalingrad ou encore donc la rue Liraud. Du nom de cet homme politique guéretois, il a été élu entre 1818 et 1849, 2 fois maire de Guéret et 2 fois député de la Creuse. Le problème, c'est que le jour où cette commission a décidé de lui rendre hommage, eh bien, son nom a été mal orthographié. André Liraud s'appelait en fait André Leroy, L-E-Y-R-A-U-D. Le E a été oublié et personne ne s'en est vraiment aperçu.
Ça veut dire que la faute d'orthographe a perduré durant 8 décennies?
Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, hein. Il faut attendre le début des années 2000 pour que la précédente municipalité tente de rectifier le tir, mais en vain, les habitants de la rue en question, eh bien, ils ont refusé de changer d'adresse, ils n'ont pas voulu remplir les papiers, les formulaires, et ce n'est finalement qu'en cette fin d'année 2025, donc près de 80 ans plus tard, qu'André Leroy a retrouvé toute l'orthographe de son nom.
Eh bien, merci à tous les trois. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec nos amis du réseau ICI. À suivre le journal de 19h de Christelle Rebière. Et puis, à 19h20, ce sera le téléphone sonne. On va rester dans la tonalité de Noël. Je vais vous demander ce soir si cette séquence festive est réellement un plaisir, ou est-ce que cette injonction à chercher, à trouver, à offrir des cadeaux ne serait pas devenue une sorte de corvée. Quel rapport entretenez-vous avec cette injonction, cette charge mentale? J'attends vos questions 01 45 24 7000 ou bien l'appli Radio France.